France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Alors que le gouvernement prévoit la création d'un nouveau congé appelé congé supplémentaire de naissance pour les années 2026-2027, en vue selon lui de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, favoriser aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, on va se demander ce soir ce que le fait d'avoir un enfant, la gestation comme la naissance, ce que ce processus provoque chez les pères du point de vue biologique. En effet, comme le démontre la recherche, il s'avère que les hommes qui deviennent pères subissent des bouleversements neurologiques et hormonaux comparables à ceux identifiés de longue date chez les mères. Alors qu'est-ce que ces découvertes changent dans notre appréhension de la paternité? La parentalité transforme-t-elle autant les pères que les mères? Pour nous éclairer ce soir, une invitée, Sarah Blaffer-Hurdy. Bonsoir. Vous êtes primatologue et anthropologue évolutionniste, vous êtes professeur émérite d'anthropologie à l'université de Caroline Davis et vous faites paraître Le temps des pères, une histoire naturelle des hommes et des bébés, traduit de l'anglais par Pierre Madelin, c'est aux éditions de La Découverte et à vos côtés Pascal Fougère que je remercie pour l'interprétation de cet échange. Et un mot pour commencer, Sarah Blaffer-Hurdy, sur ce congé supplémentaire de naissance défendu par le gouvernement dans le cadre du PLFSS. Il profitera à la mère et au père dans un schéma dit classique ou plus largement aux deux parents. Au choix, ils pourront prendre un mois ou deux mois de congé. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'allonger la période dévolue au nouveau-né et de le faire ainsi pour les deux parents?
Given what we're learning.
Alors, si on prend ce qu'on apprend sur ce qui arrive aux hommes quand ils s'occupent des enfants et quelle est la relation qu'ils ont avec eux, il y a vraiment une raison pour étendre un congé pour les pères, un congé parental pour les pères, pas seulement parce que ça aiderait les femmes, c'est aussi parce que c'est très bon pour les hommes. Hein. Ça permet aussi d'ouvrir un nouvel horizon dans la relation que les pères ont avec les autres. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent que ça serait impossible de s'occuper d'un enfant, hein, de s'occuper d'un bébé, c'est un travail pour les femmes, j'y arriverai pas. Mais en fait, ça prend pas du tout beaucoup de temps aux hommes pour être de très bons, très bonne personne pour s'occuper des bébés. Hein. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Hein. Leur taux de testostérone baisse, donc ça va faire augmenter leur immunité. Et dans tous les États-Unis actuellement, on a une crise, en fait, hein, sur quelque part un problème dans le système de soins, hein, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais il y a aussi, en fait, une espèce de solitude des hommes qui se sentent mal parce que ils n'arrivent pas, par exemple, à trouver en fait des boulots, et donc les hommes ont besoin de sentir qu'on a besoin d'eux, et je ne pourrais que leur conseiller de s'occuper des bébés parce que comme ça, ils comprendront bien à quel point quelqu'un a besoin d'eux.
C'est cela la force de votre ouvrage, Sarah Blaffer-Hurdy. C'est une force scientifique qui démontre que la gestation, la naissance d'un enfant a également un impact sur le corps même des hommes et en l'occurrence du père. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un documentaire intitulé « Paternité, une métamorphose décryptée » qui a été diffusé sur la chaîne française Arte.
En tant que cobaye de sa propre expérience, Lee a scrupuleusement suivi la trajectoire de sa testostérone. J'ai commencé à prélever de façon fréquente et intensive des échantillons de ma salive à partir du moment où Laura et moi avons décidé d'avoir notre premier enfant, puis pendant la grossesse de Laura et les premiers mois de la vie de mon fils. Sa testostérone avait déjà commencé à baisser pendant la grossesse. Puis après la naissance, c'est la grande dégringolade.
Mon taux de testostérone correspondait à celui d'une maman qui allaite. Il était aussi bas que ça après la naissance de mon fils.
un documentaire fondé, Sarah Blaffer-Hurdy, sur une partie de votre ouvrage qui paraît aux éditions La Découverte. Alors il faut nous expliquer ce qui se passe physiologiquement, physiquement, chez un papa au moment de la naissance. Le taux de testostérone qui diminue et qui se retrouve à hauteur d'une femme qui allait. Expliquez-nous.
When Lee's work and other work showing.
Alors, quand les travaux de Lee et les d'autres travaux ont montré que le taux de testostérone baissait lorsque un homme passait beaucoup de temps avec un bébé, hein, il y a des gens qui étaient très inquiets en se disant « mais je serais moins viril si ma testostérone baisse ». Mais en fait, c'est mieux pour eux, parce que si on regarde en fait sur tous les animaux, dans la plupart des mammifères, en fait, les hommes meurent avant les femmes. Aux États-Unis, c'est 5 ans en moyenne de vie supplémentaire pour les femmes. Donc, effectivement, ça veut dire plus de risques pris, plus de consommation de tabac et d'alcool. Et de toute façon, comme il le disait tout à l'heure, le taux d'immunité baisse quand il y a moins de testostérone.
Mais ça, c'est pour les conséquences. Mais ce que l'on aimerait même savoir, j'allais dire, a priori, c'est par quel moyen, par quel dispositif, par quel vecteur cette naissance a un impact direct sur le corps des hommes et le corps des pères. Sarah Blaffer-Hurdy.
I don't think we know exactly what the mechanisms are.
Alors, je ne crois pas qu'on connaisse précisément les mécanismes. C'est quelque chose que l'on connaît comme l'hypothèse du défi. John Winfield à l'Université de Californie a appelé les choses comme ça, parce qu'on fait en fait que la naissance chez les oiseaux rend les oiseaux beaucoup plus agressifs pour défendre leur territoire et trouver quelqu'un avec qui s'accoupler. Mais lorsque les petits éclosent, en fait, quand les œufs s'ouvrent, et il y a vraiment là un soin partagé entre les mâles et les femelles. Et donc, on sait que le taux de testostérone bas est corrélé à ça. On ne sait pas exactement pourquoi la testostérone diminue, mais on sait que c'est quelque chose qu'on retrouve généralisé chez tous les oiseaux et tous les mammifères.
Alors, on a parlé de testostérone, il faut maintenant parler de proctaline. Rappelez-nous ce qu'est la proctaline exactement et quel est l'impact de la grossesse, de la maternité sur la proctaline des hommes et des pères en l'occurrence.
J'adore cette question en fait, hein, proctaline. Yeah.
Prolactin is this wonderful multi-purpose.
Et donc la prolactine, c'est une hormone qui permet d'abord aux animaux de contrôler en fait leur taux d'eau, et c'est quelque chose qui ensuite en fait a été refondu pour avoir avec la lactation et la gestion des émotions. Et quand on essaie de retrouver en fait l'origine de cette prolactine chez les vertébrés il y a des centaines de millions d'années, on trouve des choses similaires en fait en raison de son effet sur les poissons, hein. Et ça avait notamment un effet sur les hippocampes où la femelle donc injectait en fait ses œufs dans une poche spécifique qui se trouve sur le ventre du mâle, et le mâle donc va être celui qui a la gestation, hein. Et dans mon cas, comme une femme, la prolactine, c'est ce qui stimule la lactation. Hein. Et pour le cas, en fait, des hippocampes, c'est ce qui stimule, en fait, les nutriments et aussi, en fait, l'oxygène pour que ces petits se développent correctement. Hein. Et donc, il y a des neuropeptides, en fait, qui sont les mêmes, en fait. Cette prolactine, c'est ce qui fait naître les contractions chez les femmes. Hein. Et donc, il y a aussi une autre, en fait, hormone qui est en jeu, hein, c'est l'isotocine, qui, lorsqu'elle commence à être créée chez les hippocampes, va provoquer l'accouchement du mâle. Hein. Donc, les amphibiens, et puis, voilà, la mère nature, en fait, puisque cette isotonine était d'abord chez les amphibiens, voilà, la nature a redonné une autre fonction chez les humains.
Et l'on poursuit avec la magie, les magies de la nature. Sarah Blaffer-Hurdy, vous mettez en exergue dans votre ouvrage un troisième train de découvertes scientifiques au moment où les pères s'occupent particulièrement d'un enfant, de leur enfant, différentes zones de leur cerveau sont activées en fonction de leur implication et notamment ils mobilisent certaines zones de leur cortex frontal. Alors là aussi, j'allais dire, expliquez-nous un peu plus et un peu mieux.
Oui, it was so amazing to me.
En 2014, hein, ça a été tellement incroyable quand le laboratoire de Roosevelt-Den en Israël a publié en fait des études sur des scanners de cerveaux de pères. Ils ont regardé en fait des cerveaux de maris qui aidaient leurs femmes avec les nouveau-nés. Alors, qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau? Donc, le cortex était effectivement activé. En fait, c'est des toutes petites portions, hein, et c'est des portions, en fait, hein, qui ont à voir avec la zone de la décision. Et personne n'avait pu s'attendre à ça, hein, qu'il y aurait des changements dans le cerveau. Et puis, il y avait une note de bas de page à cette étude, en fait. Hein, et donc, il y avait des couples gays qui adoptaient un enfant et qui s'occupaient du nouveau-né dès la naissance, en fait. Il ne s'agissait pas seulement du soutien à une mère. Et donc, eux aussi, il y avait donc dans cette partie du cerveau, la même était activée. Mais ils avaient aussi une activation en fait de la partie la plus ancienne du cerveau, l'amygdale, hein, cette partie du cerveau qu'on partage avec tous les vertébrés. Les amphibiens ont ça, les humains, les oiseaux aussi. Et ça a véritablement été un choc de réaliser que il y avait une incroyable profondeur d'émotion chez ses pères et voir que ça remonte aussi loin que notre origine en tant que vertébrés il y a des centaines de millions d'années. Ça a été une vraie surprise pour moi ainsi que pour beaucoup d'autres gens.
Mais alors justement, Sarah Blaffer-Hurdy, comment expliquez-vous que cette disposition naturelle, biologique même, à être protecteur, attentionné lorsque l'on est père pour son propre enfant, que cette disposition ait été éteinte, amoindrie, mise de côté même? Est-ce que c'est la culture qui nous a façonné ou est-ce que d'autres facteurs sont entrés en ligne de compte?
Quand
on regarde le monde aujourd'hui, comme je l'ai fait, hein, en faisant plus attention à des hommes qui s'occupaient des enfants, hein. Moi, j'ai grandi au Texas, j'avais jamais vu un homme changer une couche, et j'ai commencé à regarder autour de moi, et là, j'ai été très, très surprise, y compris dans ma propre famille, lorsque mon gendre, qui avait une vision, une politique très favorisante en fait au congé paternel dans son entreprise, a décidé de prendre du temps, de s'occuper de son bébé, et j'étais absolument stupéfaite en me disant comment ça pouvait se passer. Hein. Tout ce qui avait été ma formation d'anthropologiste évolutionniste et toute mon éducation au Texas m'avait pas préparé à ça. Donc c'était une grande nouveauté, et je dirais que la mère et la grand-mère chez moi étaient tout à fait reconnaissantes en fait. Mais l'anthropologue évolutionniste était tout à fait surprise, hein, parce que pendant des millions d'années, les femmes avaient eu en fait le monopole du soin pour les nouveau-nés à partir du moment où il y a eu le phénomène de la lactation et de nourrir au sein.
Oui, mais tout de même, Sarah Bleufer-Hordy, vous donnez quelques chiffres sur les 28 000 espèces de poissons où les soins parentaux existent. Chez environ un tiers d'entre elles, ce sont les mâles qui les assurent. Oui. En revanche, chez les mammifères, seulement 5%. Alors que se passe-t-il avec les mammifères ?
Lactation.
La lactation, en fait, hein, c'était comme ça qu'on permettait au bébé de survivre. Et quand un bébé arrivait, la mère était celle qui allait garder cet enfant au chaud et le nourrir. Hein, et elle allait donc permettre, en fait, la croissance de ce nouveau-né. Et je dois vous dire que je suis toujours en faveur des enfants nourris au sein, parce que je pense qu'ils donnent beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dans une société développée, avec des eaux qui sont bonnes, avec l'hygiène, avec des biberons, les bébés peuvent survivre tout autant que quand ils sont nourris au biberon. Et donc, du coup, les hommes peuvent nourrir aussi bien. Donc, il y a un changement culturel, un changement technique, un changement culturel, social. Il y a plus de femmes qui travaillent à l'extérieur. La vie devient plus chère. On a besoin de deux salaires. Donc, il y a tout un tas de raisons au XXIe siècle pour que les hommes soient plus nourriciers qu'ils ne l'étaient. Hein. Bien sûr, c'est une transformation culturelle, mais elle a eu des ramifications biologiques qu'on n'attendait pas.
Je voudrais vous faire entendre un couple de parents en Chine. C'est un extrait d'un reportage, d'un documentaire plutôt, diffusé sur France 24.
Je veux être un ami pour mes enfants, qu'ils puissent tout partager avec moi et demander mon aide. Quand j'étais petit, mon père n'était qu'un père, et je ne pensais pas qu'il pouvait faire quelque chose pour moi, à part me soutenir financièrement. Mais maintenant, c'est différent. Je pense que mes enfants et moi construisons une autre relation. Que ce soit la pression de la société ou de la famille, les hommes ressentent une barrière psychologique. Mais quand tu vois de plus en plus de papas faire le même choix, tu réalises qu'en fait, il n'y a plus de barrière.
Quand on s'est marié, je me suis demandé à quoi il me servait en tant que partenaire. Avant, il travaillait beaucoup. Il ne m'aidait pas avec les enfants. Il ne s'occupe pas vraiment de nous. Mais maintenant, il est le pilier de l'éducation des enfants. Il m'est vraiment très utile.
Alors, est-ce que c'est l'occasion pour les pères d'être enfin utiles, Sarah Bleufer-Hordy, ce changement, cette transformation culturelle ? Est-ce que c'est l'occasion pour les pères, notamment, j'allais dire, de devenir utiles auprès de la mère, auprès de leur famille, en s'occupant un peu plus de leur enfant, de leur progéniture ?
Je pense que c'est une transformation formidable. Hein. Le potentiel est là, ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. J'adore les commentaires du père en Chine. Hein. J'aimerais comprendre comment il a ressenti cette relation du premier mois avec son nouveau-né, parce que je pense que c'est ça en fait, hein, qui quelque part ouvre la voie, et je pense que c'est une expérience qui va amener à une autre, etc.
Je reviens sur le cœur de votre démarche, de votre recherche, Sarah Blaffer-Hurdy. Expliquez-nous le rôle qu'a joué dans ce domaine ce que l'on appelle l'alloparentalité, c'est-à-dire le fait de faire éduquer ses enfants par un groupe et pas uniquement par les deux parents, c'est-à-dire de permettre à l'enfant d'être éduqué par une communauté.
The term alloparent came out of my early work.
Non, le terme d'alloparentalité est venu en fait de mes recherches précédentes, et donc le premier texte que on appelait tous les gens autour de la famille, comme les oncles, hein, et mon mentor, Monsieur Wilson, m'a dit. Il faut qu'on ait un terme qui soit plus propre et moins familier. Prenons le terme allo, parent, hein, et ça peut tout à fait être effectivement un père qui va s'occuper du soin de l'enfant, hein, et toute personne, voilà, un allo parent, donc en fait, hein, qui n'a pas de relation. Et ça a été très important. Parce qu'un de mes livres précédents, en fait, hein, sur l'amour maternel, Mother Nature, les instants maternels, traduit en français, et c'est quand notre espèce, en fait, évoluait pour garder les enfants vivants, mais c'est seulement si les alloparents avaient aidé les mères, il n'y aurait pas eu, en fait, quelque part, la possibilité de survivre pour ces grands singes dont nous descendons. Hein. Et donc, il y a eu, bien sûr, des traces de cette alloparentalité dans nos cerveaux, et on le voit, en fait, hein, ces zones du néocortex qui sont activées, elles ont évolué avec ce soin partagé. Hein. Et donc, ce chapitre de notre histoire évolutionnelle a beaucoup, en fait, de composantes. Il y avait une sélection des membres du groupe pour aider, mais il y avait aussi, bien sûr, une pression très forte chez les bébés eux-mêmes pour qu'ils soient attirants pour les gens qui pourraient éventuellement s'occuper d'eux.
Est-ce que cet ensemble de découvertes que vous décrivez depuis le début de cette discussion nous oblige à revoir profondément notre façon d'aborder les choses et nous revoir peut-être à cette tendance à reprendre depuis le début la théorie de l'anthropologie évolutionnisme, le darwinisme dans son ensemble? Est-ce qu'il faut refonder aussi, j'allais dire, ces matrices et ces façons de voir?
Charles Darwin's theory of evolution and
les théories de l'évolution de Darwin et celle de la sélection sexuelle sont effectivement des joyaux pour la science, hein. Mais effectivement, il avait un certain nombre d'œillères culturelles avec une conception pré-victorienne, et je crois qu'il a sous-estimé l'importance de ce que les mères faisaient en relation avec les autres. Et il a parlé, en fait, la sélection. Il l'a fait reposer essentiellement sur les hommes, hein, et c'est important, en fait. Mais c'est juste que ça éloigne, ça efface toute une autre partie, en fait, de l'histoire, hein, et que l'homme n'est pas seulement quelqu'un qui entre en rivalité avec les autres hommes. D'une certaine manière, il éludait cette autre partie de l'histoire qui appartient complètement et naturellement aux hommes, hein, et c'est cette capacité de s'occuper de l'autre. Et donc, notre définition de la masculinité, donc, est effectivement réduite, il y a aussi une espèce de mauvaise conception de ce qu'est la masculinité, c'est-à-dire les hommes vont rester dans des groupes et ils vont faire du commerce et puis les femmes resteront aussi. Donc, tout ça n'est pas concordant avec toutes les preuves que l'on a, en fait, des mouvements des différents groupes chez les grands singes. Hein. Voilà, ce n'était pas seulement un mouvement avec les pieds, mais aussi un mouvement avec les ovaires.
Merci beaucoup, Sarah Blaffer-Hurdy. On redonne le titre de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions de La Découverte, Le temps des pères, une histoire naturelle des hommes et des bébés. Un merci également à Pascal Fougère qui a traduit, interprété cet entretien. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont préparé et fait cette émission. Audrey Carme, Roxane Poulain, Rodi Eken à la réalisation. C'était Léa Racine.